Bonjour, merci de nous retrouver sur les ondes de Radio Galère pour cette nouvelle émission hebdomadaire des Carnets de Comaguerre. Je salue Roselyne, qui est finalement en cabine.
Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
Et je salue nos invités, à qui nous donnerons la parole un peu plus tard, après le début de l'émission, donc qui sont deux porte-parole, c'est le titre officiel qu'on peut donner, d'un parti, ou plutôt de l'organisation de jeunesse d'un parti, qui s'appelle les Jeunesses Révolutionnaires Communistes de France, JRCF. Je n'ai rien écorché.
La jeunesse pour la renaissance communiste en France.
Ah voilà, c'est le vrai, alors, voilà le vrai titre. Hein. Donc ils nous expliqueront justement le rapport entre une structure qui s'appelle la jeunesse et le parti dont elle est issue et dont elle est un des modes d'expression, disons. Donc je salue Quentin et Maxime qui sont là à nos côtés et on parlera tout à l'heure donc des élections européennes, de leur sens et puis du positionnement. Ça sera un aspect qui méritera d'être dit puisque vous êtes tous qui nous écoutez potentiellement des électeurs, convaincus d'aller voter ou pas. D'ailleurs, la question se pose assez largement dans l'opinion publique et ils développeront la position de leur parti qui est de dire il ne faut pas y aller alors que d'autres disent il faut quand même y aller avec tous les risques et tout le manque d'intérêt que ça peut avoir parce qu'on en parlera tout à l'heure, il y a quand même 34 listes et vous êtes peut-être en train de vous gratter la tête, mais comment je vais faire là au milieu? Il faut avoir le temps de regarder 34 programmes. J'ai compté avec 80 noms par liste, puis c'est obligatoire d'avoir 80 noms. On est quand même à 2754 candidats. Ça fait beaucoup. Alors effectivement, dont beaucoup vont passer sous la table, on n'en parlera plus jamais à part à cette campagne-là, mais ils sont là. Et donc, c'est une réflexion qu'il va avoir sur notre démocratie et le sens de ce vote et le sens de ce Parlement. Quel effet produit la mobilisation de ces 2750 personnes? Et plus que ça, parce que s'ils ont trouvé tous ces noms, ces 80 noms, c'est qu'ils ont cherché alentour et qu'ils n'ont pas eu les 80 noms tout de suite. Donc c'est un temps militant considérable, c'est une énergie militante considérable. Et je ne parle même pas de questions d'argent, mais j'imagine que c'est aussi assez considérable et qu'on peut effectivement se ruiner même pour avoir 0,1% des voix. Donc tout ça, c'est une vraie question sur l'exercice de la démocratie dans nos pays, qui est considéré comme un acquis pour le progrès, puisque tout le monde, il y a égalité des droits, et que cette égalité des droits, en fait, elle n'existe et elle ne fonctionne, elle ne produit effet qu'un jour donné, et le reste du temps, l'égalité des droits, ça se discute, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, je voulais introduire dessus. Et puis on va faire donc un petit tour de l'actualité internationale. Je dis quelques mots de la Kanaky, puis on y reviendra plus largement la semaine prochaine, parce que je pense que j'aurai en direct un interlocuteur sur place, qui est d'accord sur le principe, et je le situe, c'est donc un agrégé de philosophie qui est installé là-bas, qui est arrivé dans le cadre de sa carrière professionnelle d'agrégé de philosophie, qui a épousé une Kanak, qui a des enfants, donc maintenant on dirait métis pour faire simple, et qui vit sur place et qui observe. Et une de ses observations, et je la livre pour donner un peu le climat et le recul qu'il a par rapport à l'événement, c'est de dire qu'il est allé voir le barrage filtrant Kanak qu'il y avait dans son village. Il est arrivé, il a envoyé une photo, il y a un monsieur avec un drapeau. C'est ça le barrage filtrant. Alors, prenez ça non, comme un signe que la dramaturgie gouvernementale et propagandiste qu'il y a autour de ce qui se passe en Kanaky est une dramaturgie orchestrée. Bon. Et elle est d'autant plus orchestrée qu'on sait que M. Macron a passé 18 heures sur l'île, qu'il n'a rencontré que des anti-indépendantistes, donc il a ridiculisé la fonction de président de la République une fois de plus, j'allais dire, c'est pas une surprise, mais un monsieur qui vient à un endroit où il y a un conflit qui date de plusieurs décennies, sans compter les siècles passés, et qui passe 18 heures sur une île où il y a un problème, alors que d'autres, j'allais dire, je suis pas là pour faire l'éloge d'Édouard Philippe, mais quand Édouard Philippe a essayé de comprendre et de passer du temps sur le problème, il y est resté plusieurs jours et il a rencontré tout le monde. C'est ce qu'avait fait Rocard à sa façon. Bon, ça, Macron est totalement incapable de faire ça. Macron arrive, il a dit que c'était comme ça, et puis fait un petit tour, il ne voit personne, il ne discute avec personne, et il s'en va avec ses deux porteurs de valises, donc j'ai nommé Darmanin et Le Cornu. Bon. C'est triste pour les Kanaks. Alors, heureusement, ils le prennent comme il faut, c'est-à-dire ils savent qu'ils ont le temps de l'histoire pour eux. Macron, lui, a une espèce d'urgence fébrile. Il veut toujours tout dire d'intelligent, surtout. Et évidemment, il n'est pas assez intelligent intelligents pour dire tout de façon intelligente à tout moment, surtout. Donc, on voit les limites, mais elles sont connues maintenant. Je veux dire, à force, au bout de, on en est à 7 ans d'épreuve, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, on en parlera plus en détail la semaine prochaine. Il faut savoir, effectivement, prenez du recul. Pour l'instant, il y a heureusement que 7 ou 8 morts, c'est 7 de trop, mais pas plus. Et en fait, il y a sur place, aussi bien chez les Kanaks que chez tous les immigrés des autres îles, hein, des Vanuatiens, des gens de Wallis et Futuna, il y a aussi des Indochinois, il y a aussi des Japonais qui ont travaillé dans les mines et dans le nickel et tout. Donc il y a une série de communautés compliquées, et donc tout le monde n'est pas simplement Kanak, et le camp en fait des vrais indépendants, des anti-indépendantistes, c'est le camp de colons français de récente date qui viennent là parce qu'ils retrouvent le climat méditerranéen, c'est très très ressemblant effectivement au climat méditerranéen, et en plus ils ont des esclaves sous la main. Simplement, on a enlevé l'étiquette d'esclave, mais le résultat est le même. C'est cela qui est allé voir Macron, personne d'autre. Donc, ça ne représente pas la population totale de la Nouvelle-Calédonie kanaki.
C'est eux qu'on appelle les caldoches ?
Oui, mais c'est un terme trop générique aussi, parce qu'il y a aussi dedans des fonctionnaires français qui viennent passer 3-4 ans et qui après s'en vont, donc qui ne sont pas liés à ce milieu-là. Donc il y a un milieu anti-indépendantiste qui est plutôt un milieu de grande bourgeoisie, coloniale dans sa tête et colonisatrice, et qui veut que ça reste comme ça parce qu'il se trouve bien. En plus, il faut savoir que souvent, les prestations sociales sont pour eux à des niveaux plus élevés que ce qu'elles sont métropoles. Enfin, il y a toute une série d'avantages. Je vous ai parlé aussi une fois du fait que un retraité de la fonction publique français qui prend sa retraite là-bas a une retraite double de celle qui toucherait en métropole. Bon, voilà. Il y a tout ça, c'est le bricolage colonial sur lequel on reviendra. Ensuite, ce que je voulais aborder, c'est la question donc de la justice internationale et de ses différentes juridictions. Puisque beaucoup de bruit a été fait, puisque vous savez, donc il s'est passé deux événements. Le premier événement, c'est que vendredi, donc la Cour internationale de justice a produit une ordonnance. J'insiste sur le mot, parce que produire une ordonnance, c'est donner un ordre. Quand vous dites que la France, le gouvernement français a pris une ordonnance, ça veut dire que c'est un texte qui est applicable. C'est pas simplement, c'est comme une ordonnance d'un médecin. Médecin, vous devez prendre ça. C'est donner un ordre. Et c'est donc l'ONU qui, à travers sa juridiction, donne un ordre au gouvernement israélien en disant « arrêtez immédiatement vos actions contre la population ». Ça date de vendredi. Bon, effectivement, Israël a très très bien entendu et a décidé de faire, et c'est aucune surprise, exactement le contraire. Au contraire, ils en ont rajouté, puisque même dimanche, ils sont allés attaquer un camp de l'UNRWA. Alors un camp de l'UNRWA aujourd'hui, c'est des gens qui ont été déplacés un certain nombre de fois depuis le 7 octobre entre le nord, le sud de la bande, les différents villages et tout, et donc ils sont sous une tente, donc protégés par les salariés de l'UNRWA qui n'ont pas été assassinés par les tirs israéliens. Et donc là, ils ont fait encore plusieurs dizaines de victimes. Et là, alors, les réactions sont à la fois très, très fortes au niveau des paroles. Condamnation, erreur tragique, dit même Benjamin Netanyahou. Oui, erreur tragique. Condamnation à Paris, condamnation à Washington. Le problème, c'est que ces flots de condamnation, ces flots d'émotions déversées ne conduisent à rien. C'est-à-dire, vous pouvez bien avoir M. Biden qui dit « Ah, c'est horrible, je condamne », mais « Monsieur, arrête d'envoyer des armes le jour même, c'est tout, ferme le robinet hein. ». Ah, ça, non. Alors, l'émotion, c'est très bien, l'émotion, on fait pleurer dans les chaumières, c'est scandaleux. C'est insupportable, j'allais dire. Et ça ne fait que se multiplier. On a eu un très beau communiqué de Médecins sans frontières qui était là aussi sur place, dans ce village de tente, en disant « mais c'est épouvantable ce qui se passe ». Alors, M. Netanyahou trouve que « ah, c'est une erreur tragique ». Mais d'erreurs tragiques, tu en fais tous les jours. Ça fait 6 mois que tu fais des erreurs tragiques tous les jours. Hein. C'est pas parce que maintenant on en parle qu'il faut changer d'attitude. Bon. Donc, ça, c'était l'ordonnance de la Cour internationale de justice. Qu'est-ce que ça va produire ? Ça va produire une situation qui est très, très intéressante du point de vue politique. Ça veut dire que c'est l'ONU, dont le tribunal, reconnu par tous les États membres de l'ONU, prend une ordonnance, donne un ordre à un membre de l'ONU, qui s'appelle l'État d'Israël, et cet État n'obéit pas à l'ONU. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Alors, on a un précédent. On a un précédent qui s'appelle le gouvernement d'apartheid en Afrique du Sud. Ce précédent a été tel que pendant toute une période, l'apartheid a été sanctionné par la non-participation de l'Afrique du Sud aux travaux de l'ONU. Ils étaient en punition, ils étaient au coin. Parce qu'on disait, l'apartheid, on est contre, on s'est exprimé, donc on ne vous veut pas. Alors, donc, normalement, on devrait aller dans la même direction pour la question d'Israël aujourd'hui. Alors il y aura peut-être une petite difficulté au niveau du Conseil de sécurité, parce que là on aura évidemment un veto des États-Unis, mais M. Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a la capacité en droit de dire « je sais qu'il y a une opposition au sein du Conseil de sécurité, mais la situation est grave, puisqu'il a été demandé un arrêt immédiat, et je peux constater tous les matins qu'il n'y a pas d'arrêt du tout, il y a même l'inverse, donc je vais passer à l'Assemblée générale, et c'est elle qui va prendre une position. » Dans le cas de la mise au piqué de l'Afrique du Sud, c'était effectivement l'Assemblée générale qui avait tranché. Et à ce niveau-là, il y a guère de doute que la position de sanctionner Israël serait prise. Ça peut être la première, donc vous ne participez plus aux travaux, et puis on peut aller plus loin, des sanctions économiques, il y a toute une série de possibilités. Donc maintenant, c'est très intéressant comme moment, puisque la juridiction de l'ONU a dit le droit. Et puis maintenant, c'est à l'ONU de dire, ben, le droit international reconnu par tous les États membres, c'est-à-dire la quasi-totalité de l'humanité, maintenant je décide de le faire appliquer. Si l'ONU ne fait pas ça, l'ONU se couvre de ridicule. Hein. Et donc on peut espérer qu'ils sont rentrés dans cette phase difficile. Il faut savoir que dans ces cas-là, les pressions sont considérables sur l'appareil de l'ONU, mais l'ONU est maintenant obligée de dire, ben voilà, j'ai demandé à la Cour internationale de justice de trancher, elle a tranché, c'est limpide, c'est parfaitement clair, et Israël ne reconnaît pas le jugement, donc maintenant il faut que l'ONU se fasse respecter.
Et d'après toi, ça peut prendre combien de temps ?
Ça peut aller assez vite. Ça peut aller assez vite s'il y a l'énergie politique suffisante. C'est-à-dire si effectivement il y a suffisamment d'États qui vont dire au secrétaire général, maintenant ça commence à bien faire, ça suffit, il faut y aller. Alors on sait qui va le pousser. C'est évidemment la diplomatie russe, la diplomatie chinoise et tout. Même les Européens sont un peu mal à l'aise en ce moment parce qu'ils commencent à dire, comme ils ont dit pour le massacre là à Rafah, ah c'est épouvantable, c'est tragique et tout. Mais mettez vos paroles en accord avec vos actes en accord avec vos paroles. C'est bien beau de dire c'est affreux tous les jours depuis le 7 octobre, donc maintenant il faut faire quelque chose pour que ça cesse. Bon. J'ai un assez bon espoir de ce point de vue-là, avec toutes les difficultés, parce qu'on ne met pas en mouvement une organisation qui représente la quasi-totalité de l'humanité en 24 heures sur un coup de sifflet, mais les conditions politiques sont largement réunies. Et je pense qu'en plus, au niveau du principal frein, donc Israël, j'en parle pas, le frein, il est à Washington, et qu'au niveau de Washington, la situation est quand même assez compliquée du fait de la campagne électorale, des divisions à l'intérieur des différents partis, et donc la position des États-Unis va être dure à élaborer. Je donne quand même une dernière indication, mais qui est liée à la question de la Cour pénale internationale. Le président de la Chambre des représentants, M. Johnson, qui est donc un démocrate, a invité M. Netanyahou à venir prendre la parole devant le Congrès dans les jours qui viennent. Écoutez bien, il a invité. Alors du côté de la présidence du Sénat, vous savez que les Républicains ont une voix d'avance au Sénat, donc le président, le porte-parole du Sénat s'est fait un peu tirer les oreilles, mais aussi bien ils vont basculer. Et donc on risque d'avoir dans les jours qui viennent une invitation à M. Netanyahou qui ira parader devant le Congrès des États-Unis pour dire que sa politique est la bonne. Vous imaginez ce que ça veut dire. Bon. Alors, la limite du genre, elle est dans les limites de la Cour pénale internationale. Ça m'introduit au deuxième sujet. La Cour pénale internationale, c'est un tribunal qui est créé à l'initiative d'un certain Bill Clinton, il faut le rappeler. Les États-Unis n'en sont pas membres et n'y sont pas soumis. Et cette Cour pénale internationale exerce un droit de poursuite pénale, donc de condamnation des individus pour une série de crimes, donc le crime contre l'humanité, le crime de guerre et le génocide et l'agression. Il y a 4 crimes qui sont retenus contre un individu, chef d'état-major, général, tout ce qu'on peut imaginer, devant cette cour. Cette cour ne légifère que pour les États qui ont signé, qui ont adhéré à son statut. Ce n'est pas comme la Cour internationale de justice où tous les membres de l'ONU sont impliqués puisque c'est la Cour de l'ONU. Et donc, effectivement, tous les États n'y sont pas, à commencer par Israël et à commencer par les États-Unis. Ce qui fait que, et c'est là que ça devient, j'allais dire, triste à pleurer, enfin, où on peut rire, mais, c'est-à-dire que si M. Netanyahou est invité la semaine prochaine à venir parader devant le Congrès pour en plus demander encore de l'argent et des armes, parce qu'il ne viendra pas pour dire on a raison, il viendra pour demander, il va tendre la main. Et peut-être on y mettra quelque chose. Bon, si M. Netanyahu, il ne craint rien, Israël n'a pas signé la CPI, hein, les États-Unis n'ont pas signé la CPI, et donc ce n'est pas le FBI qui va mettre la main au collet de M. Netanyahu quand il va descendre de l'avion. Donc on rêve complètement sur ces affaires-là. C'est pas du tout sérieux. Il ne court aucun risque. Hein. Il ne court aucun risque.
Et où donc, en est le mandat d'arrêt ?
Alors le mandat d'arrêt lui-même n'a pas été émis. Alors je rappelle que le procureur, M. Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, a dit qu'il allait demander à la structure correspondante de sa CPI d'émettre des mandats d'arrêt. Mais bon, à l'heure où je parle, ils ne sont toujours pas admis. Il faut savoir que la requête de M. Karim Khan, donc le nouveau procureur général de la Cour pénale internationale, fait la suite à la même requête formulée en 2015 par Mme Fatou Bensouda, qui n'avait pas été suivie des faits. Je rappelle, Mme Bensouda avait dit qu'il y a effectivement les éléments qui permettraient de lancer des mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens. Il ne s'était rien passé.
Elle avait même été interdite d'aller aux États-Unis.
Voilà, alors, elle avait été, pour deux motifs. Alors, il y avait ce motif-là, qui effectivement est connu et reconnu, mais dans le même temps, elle avait dit « je vais aller regarder ce qui se passe en Afghanistan ». Alors là, ça avait été les hurlements au Pentagone et à la Maison-Blanche. Mais de quoi je me mêle ? Et donc, on lui avait interdit l'accès aux États-Unis, on avait menacé sa famille, on avait enlevé leur passeport à toute une série de gens. Donc voilà les rapports entre les États-Unis, créateurs de la Cour pénale internationale, et cette Cour pénale internationale et son activité concrète. Je rappelle, Mme Bensouda donc, s'était arrêtée. D'ailleurs, il y a quelques dépêches qui parlent du précédent, dans la mesure où elle avait demandé aussi des mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens à l'époque. Mais plus dans les coupures de presse que j'ai pu lire ces jours-ci, plus personne ne fait allusion aux idées. Aux idées malsaines, j'allais dire, je mets d'énormes guillemets, pour poursuivre des gens qui auraient fait des crimes en Afghanistan. Bon. Et on voit bien qui était visé, on voit bien qui était protégé. Donc voilà, je prends ma distance par rapport à la Cour pénale internationale, dont je considère que la réceptivité à des actes de corruption, de toute quelle qualité que ce soit, est extrême. C'est une cour dangereuse, très fragile au fond. Et si on a dit, alors la page est un peu tournée, que la Cour pénale internationale n'était capable que de juger de petits dirigeants africains, on était assez près de la réalité. Donc, jamais la Cour pénale internationale est allée vraiment dans un problème lourd. Bon. Et je ne pense pas qu'elle prenne un autre chemin aujourd'hui. Voilà ce qu'il importait de rappeler. Ensuite, un petit mot sur l'Ukraine, hein, puisque, au passage, on a des prises de position donc des autorités qui viennent. Alors, autorités d'ailleurs un peu affaiblies, puisque vous savez que depuis la semaine dernière, M. Zelensky n'est plus président de rien du tout, puisque son mandat est achevé officiellement, et que comme il a voulu qu'il n'y ait pas d'élection, ben, il n'existe plus, c'est tout. Bon. Mais il est là, on continue à le voir à la télévision, etc. Bon, ça, c'est cocasse, mais enfin, c'est à peine cocasse, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, son ministre ou quelqu'un de l'état-major est très content de l'arrivée des instructeurs français sur le terrain. Alors, instructeur, c'est très joli, c'est un monsieur qui vient, dit, ben oui, on a vendu des canons César ou je ne sais quoi, on apprend à ces soldats ukrainiens à s'en servir. Bon, ça, c'est très joli. Et dans le même temps, il y a l'armée russe qui dit, ben voilà, dans la conquête que j'ai faite d'un certain village, je suis tombé sur des cadavres de Français. Ces cadavres qui sont des légionnaires du 2e régiment étranger de parachutistes. Alors, le 2e REP est un vieux classique de la colonisation qui est intervenu un peu partout. Il est là pour ça. Et donc, effectivement, on a à la fois le discours officiel sur les instructeurs et puis la réalité. Effectivement, il y a déjà aujourd'hui des soldats de l'armée française, fussent-ils de la Légion étrangère, qui sont en train de combattre dans les rangs de l'armée ukrainienne. Que les choses soient bien bien claires là-dessus, ça fait partie du double langage auquel on est habitué. Ça n'empêche qu'effectivement, l'armée russe progresse tranquillement et donc pousse le front autant qu'elle peut face à une armée ukrainienne qui ne ressemble plus tellement à une armée ukrainienne, il n'y a plus grand-chose. Et on est rentré, c'est tout à fait clair maintenant, avec une attaque qui a eu lieu la semaine dernière sur laquelle il faut dire un mot, c'est que décidément, l'OTAN a décidé qu'il s'agissait de mener la guerre contre la Russie. Il ne s'agit plus du tout du Donbass, ni du territoire ukrainien, ni quoi que ce soit. Il s'agit de mener la guerre de l'OTAN contre la Russie. Et donc, il y a eu la semaine dernière l'attaque d'un dispositif de radar pointu qui est destiné à mesurer l'avancée des missiles balistiques, donc à mesurer la capacité d'attaque nucléaire de la Russie par l'OTAN. Que les choses soient parfaitement claires. C'est tout ce qui reste, c'est-à-dire que le gouvernement de Kiev ne sert plus à rien du tout, si ce n'est à masquer cette politique qui maintenant est affirmée, c'est-à-dire on peut dire à partir de maintenant, plus personne ne peut dire le contraire, l'OTAN a déclaré la guerre à la Russie, même s'il n'y a pas eu de papier signé pour ça, ça revient à ça, puisqu'elle attaque les installations. Alors c'est la première, ça a été... Bon, apparemment c'est abîmé, c'est réparable et tout, mais c'est une attaque contre une installation stratégique de l'armée russe. Donc la guerre est commencée. Alors, n'attendez pas, ça c'est les rêves démocratiques qu'on a, hein, à ce qu'il y ait un vote au Parlement français ou à la Chambre des communes là-dessus. Ça c'est terminé, ça c'est de la vieille histoire. C'est du temps de Condé à Rocroix, c'est au XVIIe siècle qu'on faisait ça, on envoyait un télégramme, un monsieur qui disait « Non, c'est fini, la guerre elle est là, la guerre elle est là ». Dernier mot sur les soldats du 2e régiment étranger de parachutistes. Je vous dis, puisque je l'ai su par différents biais, qu'il y a beaucoup dans ce 2e REP d'Ukrainiens réfugiés, hein, qui ont été acceptés largement par la République française, installés. Il y en a qui se sont installés dans des métiers civils et il y en a beaucoup qui ont été embauchés à la Légion étrangère. Donc la force de frappe de l'armée française formée par des Ukrainiens en exil, elle était prête depuis un certain temps, donc elle est en activité, c'est confirmé. Bien, dernière chose, je regarde l'heure tranquillement, dernière réunion qui me paraît importante dans la semaine écoulée, c'est deux choses. Une toute petite chose, l'AES, donc l'Association des États du Sahel dont on a parlé, donc vous savez, Mali, Burkina Faso et Niger, donc une association constituée avec une politique de défense intégrée unique, ça c'est tout à fait clair, est en train de commencer les premières manœuvres collectives avec l'armée du Tchad et l'armée du Togo. Alors, on n'en est pas encore à l'intégration de ces deux nouvelles républiques dans l'AES, mais déjà, on travaille ensemble et on travaille contre le même ennemi, puisque le même ennemi, maintenant, il est très clairement identifié, c'est-à-dire que aussi bien les militaires burkinabés que nigériens disent, enfin, nous, on nous avait dit que l'armée française voulait du mal aux djihadistes, et on s'aperçoit que quand on s'en prend aux djihadistes, nous, on y arrive et on les bat. Donc l'armée française n'a pas vraiment fait le travail, et la conclusion qu'ils en tirent, je l'ai lu différentes fois, et on avait tous compris, c'est que l'armée française était là juste pour donner l'impression qu'elle attaquait les djihadistes, et surtout pour rester sur place et pour avoir la maîtrise de la situation. Bon, elle a perdu la maîtrise de la situation, et il y a donc deux nouveaux États qui sont en train de tirer la même conclusion, hein, c'est-à-dire que les djihadistes fonctionnent tout autant que l'armée française les laisse fonctionner. Et dès l'instant où des gens déterminés, patriotiquement, j'allais dire, disent « maintenant ça suffit, on en a assez, qui tue les gens chez nous », ça change complètement le jeu. Ça, c'est un élément très positif. Alors, je ne sais pas si le Togo et le Tchad rentreront dans les mois qui viennent dans l'AES, je ne pense pas, mais on fait connaissance, on travaille ensemble et on a un objectif commun, éviter, parce que des djihadistes, il y en a aussi au Togo, il y en a aussi au Tchad, donc effectivement, ils ont intérêt à travailler ensemble.
Moi, j'attends que le Sénégal fasse la même chose.
Voilà, alors sur le Sénégal, on a déjà eu le débat à ce micro. Moi, j'ai quelques doutes, c'est-à-dire la transition démocratique électorale m'a laissé un peu dans le doute. C'est-à-dire que, je le dis pour les deux raisons, il y avait donc un parti qui était l'opposant de M. Macky Sall, qui donc n'arrivait pas à se présenter, était réprimé. Ce parti a vu ses dirigeants emprisonnés, dans le cadre de manifestations de masse, etc. Et puis, curieusement, M. Macky Sall a libéré non pas le responsable politique de ce parti, mais le numéro 2. L'autre est resté en prison, et c'est le numéro 2 qui est devenu président de la République. Donc, cette espèce de balai étrange en disant, finalement, c'est Macky Sall qui a sélectionné qui allait être président à sa place. Il y a une espèce de gêne par rapport à ce jeu.
Et Ousmane Sonko n'est plus en prison, quand même.
Non, il est sorti depuis. Donc, l'autre vite l'a mis Premier ministre. Mais j'ai un peu un doute. Et mon doute a été accru par la vie visite très officielle que le nouveau président, donc BDF, comme on l'appelle pour faire simple, a rendue à M. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, et il a rendu hommage au patron actuel de la France-Afrique. Ce qui m'a laissé un doute. Donc la situation sénégalaise est ouverte, disons, de ce point de vue-là. On verra. On verra.
En tous les cas, Ousmane Sonko a l'air de
Je pense qu'il est plus costaud politiquement, et ce n'est pas pour rien qu'on ne l'a pas laissé se présenter. Je veux dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, pour l'anecdote, le représentant donc, du Mali qui a fait état des manœuvres communes Togo-Tchad AES s'appelle M. Ouattara aussi, mais il s'appelle M. Fousseyou Ouattara. Bon, c'est un nom assez connu, assez utilisé dans cette région. Voilà. Dernière chose, avant que nous en venions à notre plat de résistance sur les élections européennes, un mot sur l'organisation, la réunion à Astana, donc Astana, vous savez, c'est la capitale du Kazakhstan, des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération de Shanghai. Alors ça, c'est tout à fait important, puisque cette réunion des ministres des Affaires étrangères de l'opération de coordination de Shanghai anticipe et prépare la réunion des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai qui aura lieu en juillet, je crois que c'est à Astana aussi. Bon, peu importe. L'important, c'est que cette réunion a débouché sur toute une série de communiqués de travaux très importants concernant l'augmentation de la sécurité collective. C'est important parce que il faut que chacun fasse bien la différence entre ce que c'est que l'organisation de coopération de Shanghai, qui implique les gouvernements avec des traités, des accords de travail à tout niveau, ministère, administration, entreprise, etc., qui n'a rien à voir avec les BRICS. Alors ça a à voir parce qu'effectivement il y a les mêmes acteurs sur certains, mais les BRICS c'est une espèce de structure où on se voit, on discute, on essaye de se mettre d'accord et tout. Il n'y a aucun statut, aucun engagement dans les BRICS. La preuve, c'est que l'Argentine a failli rentrer, qu'elle est passée de l'autre côté du Manche, soudainement, avec l'élection de M. Milei. Donc, bien faire la différence entre l'OCS, qui a été créé au début de l'année 2000, avant les attentats du 11 septembre, j'insiste là-dessus, qui a été créé, c'est une initiative sino-russe, très très claire, qui s'est élargie, en son membre maintenant l'Inde, le Pakistan, donc c'est très très l'Iran bien entendu, d'autres vont y rentrer, par exemple il a été annoncé que le Bélarus, comme on dit maintenant, allait y rentrer donc à l'occasion de la réunion du sommet de juillet, il va y rentrer très certainement l'Arabie Saoudite, et il va probablement y rentrer aussi la Mongolie. Vous voyez, donc on a une organisation territoriale sur l'Asie centrale en général, enfin c'est très très large puisque ça part de la Russie, même du Bélarus, ça part très très loin vers l'Ouest, qui est une organisation coordonnée, bien organisée, et pour lesquelles les questions de sécurité deviennent centrales. Et ils améliorent leurs outils de travail en commun, c'est-à-dire ils ne veulent pas laisser n'importe quel djihadiste, quelle que soit sa couleur, circuler, vendre de la drogue, faire du trafic d'armes sur leur territoire, parce qu'ils savent que c'est leur sécurité collective qui est en jeu. Donc on a une institution qui est assez, allez, pas méconnue si on veut s'y intéresser, elle est très très peu mise en lumière sous les projecteurs occidentaux parce qu'elle dérange beaucoup. Et à la limite, beaucoup plus que les BRICS, parce que les BRICS, ça n'a pas disparu parce que Milei a basculé du mauvais côté. Les BRICS continuent, ils auront d'autres gens qui vont venir, etc. L'Organisation de coopération, c'est une organisation internationale qui a des relations avec d'autres organisations internationales et qui est aujourd'hui un peu le pilier de la multipolarité au travail. Au travail, je dis bien, c'est pas dans des discours, on se voit, on a des services de sécurité qui se rencontrent, qui échangent des fichiers, qui échangent des moyens, qui disent là il faut poursuivre à tel endroit, là il faut intervenir sur telle et telle chose. C'est beaucoup beaucoup plus consistant et solide que les BRICS. Les BRICS, c'est on fait connaissance, on essaye d'avoir de bonnes relations bilatérales, on prend des positions, c'est beaucoup plus léger, il n'y a pas de dispositif institutionnel. Voilà, je voulais terminer là-dessus parce qu'on en reparlera certainement en juillet une fois que le sommet aura eu lieu, mais il est porteur de beaucoup d'annonces.
Excuse-moi,
je t'en prie.
Juste avant de commencer le sujet
Oui, vas-y.
Avec nos amis, juste on disait que pour ce qui concerne l'alliance des États du Sahel, on disait entre nous que l'Occident n'allait pas se laisser faire.
Ah ben c'est clair, voilà. C'est clair.
Et je voulais annoncer que la semaine prochaine, il y avait un sommet Corée. Afrique.
Exact.
Qui se déroule à Séoul avec tous les grands de ce monde.
Tout à fait. Voilà. Alors là, on est effectivement, c'est la suite de ce que je viens de dire, on est effectivement dans les contre-feux à l'Organisation de coopération de Shanghai. Alors contre feu, l'Union européenne, il n'y a pas de souci. Ça peut aller jusqu'à la tentative d'assassinat du Premier ministre slovaque, hein, qui n'est pas, il rentre pas dans le dispositif, donc à mort. Bon, ils l'ont raté, mais ils avaient bien envie de ne pas le rater. Bon. Et puis ça va de l'autre côté, du côté qu'on appelle Indo-Pacifique, pour faire large, hein, qui est de dire qu'il faut susciter autour de la Corée du Sud, qui restait une quasi-colonie des États-Unis depuis le début. Alors il faut savoir que la Corée du Sud a été sauvée du communisme, je fais ça entre guillemets, par une intervention militaire de l'OTAN, de l'ONU, pardon, qui s'est faite. Alors, je rappelle ça pour l'histoire parce que l'ONU a décidé d'intervenir pour sauver, en fait, pour imposer une dictature militaire pro-occidentale en Corée du Sud, parce que l'URSS était fâché, avait boudé l'ONU en tant que l'ONU n'était pas correct. Bon, ça a produit des effets. Alors, vous avez des pays, par exemple, qui, comme la Colombie, sont rentrés dans l'orbite de l'OTAN d'une façon quasiment. Et des États-Unis définitives à ce moment-là, qui n'en sont jamais sortis. On peut avoir des espoirs, M. Petro fait des efforts pour s'en sortir un peu, mais c'est difficile parce que la Colombie est très, très marquée par cette présence états-unienne. Donc voilà, et donc contre-feu, évident, il y aura peut-être des tentatives de contre-feu côté des Philippines aussi, enfin tout est organisé pour que cette énorme masse continentale que les géopoliticiens appellent le Heartland, donc le cœur du dispositif, donc autour de la Chine et de la Russie, les deux gros morceaux, soit éclate, ne tienne pas le coup ensemble, et donc on l'attaque par tous les bouts, le bout coréen, alors la Géorgie, je ne suis pas revenu sur la Géorgie, mais c'est la même chose, ça en fait partie. Alors c'est une petite anecdote sur la Géorgie, finalement, je suis trop bavard. Bon, j'ai cherché les références du texte qui permet d'introduire une limitation de la création des ONG dans un territoire. Alors, ce texte existe. Il existe, il a été voté par le Congrès des États-Unis en 1938. Il s'appelle le FARA. Alors, Foreign Agent... c'est très important, c'est en 1938 parce que c'est avec un texte pareil que dès le lendemain de Pearl Harbor, les États-Unis ont pu mettre en prison, dans des camps, tous les Japonais qui habitaient sur le territoire des États-Unis. Voilà. Et donc, quand la Géorgie dit « moi, je voudrais quand même contrôler qui a financé telle ou telle ONG », on dit « c'est un texte russe ». Non, le texte d'origine, il est de 1938, il a été fabriqué aux États-Unis. Voilà, j'ai été trop bavard. Donc, on va donner la parole à nos deux amis, deux invités, donc Quentin et Maxime, qui vont nous présenter d'abord leur groupement, j'appelle ça comme ça, les rapports qu'il a avec le PRCF, et puis on va parler du sujet, cette élection au Parlement européen du 9 juin. Voilà, on vous écoute.
Alors déjà, moi, c'est Maxime, j'ai 20 ans, je suis en troisième année d'études de cinéma.
Oui, et moi, c'est Quentin, du coup, je suis étudiant en Master 2 de recherche en sciences politiques. Et merci à vous pour cette invitation.
Et donc, on est militant de la JRCF, donc comme tu l'as dit, c'est l'acronyme des Jeunes pour la Renaissance communiste en France.
Oui.
Donc c'est l'organisation de jeunesse du PRCF, le pôle de renaissance communiste en France. On travaille à la renaissance d'un parti communiste de lutte et de combat, permettant de porter les aspirations profondes de la classe ouvrière sur la base des analyses de Marx, Engels et Lénine. Donc on est marxiste-léniniste. On s'est créé dans les années 2000, quelques années après la création du PRCF, qui s'est créé lui en 2004. Afin de mener à notre échelle en tant que jeunes le combat contre le capitalisme, pour la sortie de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'euro, et pour l'avènement du socialisme, de ce qu'on appelle aussi le CNR 2.0, donc c'est en référence au programme progressiste du CNR, le Conseil national de la résistance, et aussi d'un Frexit progressiste. Et donc c'est dans ce contexte des élections européennes que d'ailleurs nous on appelle le scrutin européiste, qu'on appelle le plus justement au boycott, afin de délégitimer l'Union européenne et de préparer le terrain justement à une sortie progressiste de l'Union européenne, c'est-à-dire un Frexit progressiste, car nous on pense que justement l'enjeu de ces élections, c'est de légitimer l'Union européenne et de préparer le saut fédéral européen. Voilà.
Ça, il faudra que tu développes.
Oui,
le saut fédéral, oui, c'est très très important.
Je commencerai sur une nouvelle édition de l'Eurobaromètre qui révèle que la France est le pays membre de l'Union européenne dont la population est la plus eurosceptique. On constate effectivement que l'abstention elle est en progression depuis plusieurs années. parce que justement les travailleurs se rendent de plus en plus compte que ce qu'on nous vend comme l'Europe sociale, je mets des guillemets, l'Europe des peuples, je remets des guillemets, bah en fait c'est du pipeau quoi. En réalité, l'Union européenne, ça commence par la casse des services publics, donc la casse de l'éducation, des hôpitaux. La France, elle était connue à l'international justement pour sa qualité en termes de santé, la casse de la SNCF, de l'EDF, de la Poste, également des conquêtes sociales évidemment, puisque la France est quand même marquée, on a parlé avec le CNR, d'une histoire, on va dire, ouvrière importante, qui nous ont permis justement d'obtenir le CNR, qui est aussi jalonné des luttes des FTP-MOI et de la Commune de Paris, par exemple, sans oublier évidemment la Révolution française qui donna lieu à la République une et indivisible, qui justement est en train de se faire détruire.
C'est en cause, oui.
Exactement. Donc ces conquêtes sociales aussi, comme du coup la sécurité sociale, le code du travail, les retraites par répartition, le statut de la fonction publique, et également du produire en France industrielle, dans le sens où la France est de plus en plus désindustrialisée. Assez massif, et ça rentre en fait dans le cadre des traités européens, je pense notamment à Maastricht, selon le principe de, ouvrez les guillemets, la concurrence libre et non faussée. Et donc au sujet des services publics, il me semble important de relever ce que disait Geneviève Le Guay. Donc c'était une gilet jaune, une militante d'Attaque, qui s'est faite agresser violemment par des policiers lors d'une manifestation à Nice. Et donc elle disait ceci: le code du travail compilait 150 ans de conquête sociale, vous le détricotez. Vous, elle parle de l'Union européenne.
Bien sûr.
La sécurité sociale, véritable bijou que le monde entier nous envie, vous l'offrez aux appétits des assurances. Vous organisez la contre-réforme des retraites, vous cassez l'assurance chômage, vous bradez notre patrimoine, vous détrisez les services publics, toujours pour privilégier le privé, notamment en cassant les hôpitaux de l'intérieur. Votre politique est une véritable honte au regard de celle qui fait cohérence et qui fait peuple. Et pour nous, c'est justement très important, cette notion de souveraineté, puisque on défend l'idée de patrie selon l'idée que de Georges Pulitzer, c'est-à-dire la nation, c'est le peuple. C'est toujours selon cette idée-là, complètement aux opposés des idées nationalistes, c'est évident. Il y a aussi une évidence qui est à rappeler, c'est l'illégitimité de l'Union européenne.
Oui.
Puisque l'Union européenne, déjà, elle est faite depuis le traité de Rome de 1957. Elle a été construite pour imposer une dictature de classe, une dictature de classe bourgeoise, contre les peuples, pour renforcer un impérialisme, l'impérialisme de l'OTAN et de l'Union européenne, sous l'égide, évidemment, des États-Unis. Et donc le traité de Rome de 1957, il consacre la libre circulation des capitaux et des marchandises et le règne de la concurrence libre et non faussée dont on a parlé. Les travailleurs, ils ont plusieurs fois exprimé leurs revendications via leur mouvement contre la réforme des retraites, dans les rangs des Gilets jaunes et récemment en participant au mouvement des agriculteurs, justement, contre cette pseudo-légitimité de l'Union européenne. Donc déjà, il faut savoir que le fonctionnement en soi de l'Union européenne est bureaucratique, et c'est un petit mot pour définir ce que c'est, puisque c'est la Commission, en gros, qui écrit les lois, qui les fait voter. J'ai appris, moi, en regardant le reportage Bruxelles Business de Mathieu Leiter et de Friedrich Moser, qu'il y a 2500 lobbies qui jouxtent les rues du Parlement européen à Bruxelles. Donc évidemment, c'est toujours sous une influence des lobbies, vu que c'est toujours dans un but qui sert à une classe, quoi, qui est la classe bourgeoise. Et donc c'est bien la preuve que l'Union européenne, c'est pas une instance démocratique, premièrement. On a eu aussi le non en 2005, malgré un énorme matraquage médiatique. Il me semble qu'il y avait, je crois, 80%, peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'était à hauteur de 80% des médias qui incitaient au oui et qui invitaient des personnes qui faisaient toujours la promotion du oui, donc à la Constitution européenne. Et donc malgré ce matraquage médiatique en faveur du oui, les Français, dont 70% des ouvriers, c'est important de le préciser, ont dit non à la Constitution européenne. Parce qu'ils voyaient déjà, en fait, que depuis 20 ans, la destruction de leur lieu de travail, les privatisations et les délocalisations permises par le traité de Maastricht.
Bien sûr.
Et donc, le fin mot de cette histoire, c'est le fonctionnement antidémocratique de l'Union européenne, puisque ce nom des Français n'a pas été pris en compte, puisque à peine 2 ans plus tard, en 2007, le traité de Lisbonne passe. Un traité de Lisbonne qui est en fait une copie quasi conforme de cette constitution. Donc il y a une hypocrisie totale. Et d'ailleurs, en Irlande, ils ont fait revoter...
autant de fois que nécessaire.
Voilà, exactement. jusqu'à que ça soit accepté, entre guillemets, par le peuple irlandais. Donc on voit bien que c'est une absurdité totale. Et donc depuis cette année-là, les traités, ils sont plus ratifiés par des référendums populaires, mais par les parlements nationaux qui sont beaucoup plus dociles, évidemment. Et donc ça nous amène à la question du sceau fédéral européen, qui pour nous est primordial.
Tout à fait.
Donc la question du sceau fédéral européen, elle se trouve pas uniquement dans les discours, elle se trouve très concrètement, très matériellement. Elle est ancrée dans une résolution adoptée par le Parlement européen et l'Assemblée nationale le 22 et 29 novembre 2023. Ça n'a rien d'étonnant, même certains médias dominants en parlent. Libération, par exemple, on peut lire dans Libération, je cite, « La France et l'Allemagne gouvernées par Emmanuel Macron et Olaf Scholz sont totalement alignées avec ces propositions fédéralistes. Mmh. » Donc ça n'a rien d'extraordinaire de croire ça. On peut se pencher notamment sur le cas de la collectivité européenne d'Alsace pour avoir un petit peu un avant-goût de ce que va sûrement devenir la France. Si un sceau fédéral européen se produit, ce qui va sûrement être le cas. Donc pour rappel, l'Alsace, ça s'appelle maintenant la Collectivité Européenne d'Alsace, donc la CEA. Mmh. Et donc on pourrait résumer ça comme ça. Brigitte Klinkert, qui est ministre déléguée à l'insertion, elle nous dit ça. Elle nous dit que la Collectivité Européenne d'Alsace, voulue par le président de la République, va devenir un laboratoire de la décentralisation et un laboratoire européen pour la France. Donc elle fera la promotion d'une marque Alsace. C'est le terme qui est employé, c'est le mot marque Alsace. Et ça, en fait, Cette collectivité européenne d'Alsace, comme je l'ai dit, c'est juste un avant-goût de ce que va devenir non seulement la France, mais les autres pays de l'Union européenne, puisque l'Union européenne ne sera alors qu'une fédération, en fait, tout simplement. Et donc la position du PRCF et de la GRCF, c'est pas de se placer contre l'élection en soi. Mmh. Quand on appelle au boycott, c'est pas en disant les élections, dans tous les cas, ça ne sert à rien, il faut jamais voter. On a une position qui est dialectique, donc en fonction de la situation, en fonction des conditions concrètes, on produit une analyse concrète et qui va déterminer nos moyens, nos actions politiques et nos campagnes. Et comme je le disais tout à l'heure, on se revendique surtout de Marx, Engels et de Lénine. Et il faut savoir que même Lénine avait participé au boycottage des élections de la Douma en 1905. Et il disait ceci: le boycottage est le seul moyen de lutte le plus décisif qui s'attaque non pas à des formes d'une institution donnée, mais à son existence même. Le boycottage est une déclaration de guerre directe à l'ancien régime, une attaque directe contre lui. Et il ajoutait: cette chose si simple que n'ont absolument pas su comprendre les social-démocrates opposés au boycottage. Parce que, évidemment, quand on boycotte, on le fait pour révéler la nature de classe de l'Union européenne. On se place contre l'Union européenne. Et c'est pas une attitude passive. C'est toujours avec l'horizon d'un Frexit progressiste. C'est pas une attitude fataliste. C'est toujours dans l'horizon de sortir de l'Union européenne, en premier lieu évidemment de l'OTAN, du capitalisme et de l'euro. Et on peut voir qu'en fin de compte, notre position, elle n'est pas si extravagante que ça, puisque les travailleurs non seulement continuent de s'abstenir, l'abstention elle est en progression, et même les jeunes, ça nous concerne directement puisque... moi, j'ai que 20 ans, quoi. Même les jeunes entre 18 et 24 ans envisagent de ne pas aller voter justement majoritairement pour le 9 juin. Il y a 70% selon l'Humanité de jeunes qui ne vont pas aller voter. Voilà, parce qu'ils ne voient pas l'intérêt, en fait. On nous a bassinés, en fait, à l'école sur le projet européen, comme quoi, avec des images de gens qui se tenaient la main, avec autour des petites étoiles. Voilà. Mais en fait, c'était tellement abstrait, c'était tellement flou que ça n'avait aucun sens pour nous. On comprenait rien au fonctionnement de l'Union européenne. Et je crois que même aujourd'hui, beaucoup de gens auraient du mal et ne comprennent pas ce fonctionnement, ce qui est fait évidemment exprès. Et donc, comme on l'a dit, notre position d'abstention, elle n'est pas si extraordinaire. Souvent, on nous oppose l'idée que l'abstention servirait l'extrême droite. Mais déjà, si plus il y a d'abstention, bah, moins il y a de voix pour l'extrême droite.
Bah, bien sûr.
Ça, c'est un fait, ça. Donc, boycotter, c'est pas donner des voix à l'extrême droite, comme beaucoup de personnes le pensent. Le véritable danger, pour nous, il se trouve dans la légitimation de l'Union européenne, qui fait justement, elle, factuellement, monter l'extrême droite partout en Europe, depuis des dizaines d'années. Malgré la présence, on pourrait appeler fantoche, de certains partis dits de gauche au Parlement européen. Je ressors une citation de Daniel Freund, qui est un eurodéputé allemand écologiste, qui dit exactement « La montée de l'extrême droite en Europe n'est pas une fatalité ».
Bien sûr.
On voit bien, du coup, avec cette citation et avec l'effet que j'ai évoqué, que l'Union européenne, non seulement, évidemment, comme toute chose, a un caractère de classe, et que son caractère de classe est bourgeois. Et que sa frange extrême, qu'est l'extrême droite, se pâme complètement dans l'Union européenne. Puisque pour elle, c'est parfait, parce que l'extrême droite idolâtre le mythe d'une civilisation européenne, blanche, voilà.
Arienne, pourquoi pas.
Voilà.
Tant qu'on y est.
Occidentale, etc. Ce qui est en fait l'ennemi numéro un des travailleurs, et je dirais même de tout humaniste, quel qu'il soit, quoi. Donc on s'inscrit dans ce contexte-là, et comme tu l'as évoqué en parlant notamment de la question de la Palestine et de la Kanaky, c'est toujours dans le contexte aussi de la montée, de l'escalade pour la guerre. Donc évidemment, si la France et tous les pays de l'Union européenne se transforment dans une fédération, quoi, ça voudra dire qu'on perdra complètement notre souveraineté nationale, qui sera du coup arrimée à l'OTAN. Et on peut lire d'ailleurs sur le site internet des ministères des armées, les armées françaises sont pleinement engagées dans le renforcement de l'OTAN sur le flanc est de l'Europe. On lit aussi dans Euronews que le chef de l'armée britannique invite les citoyens à se préparer à une guerre massive avec la Russie. Et Macron aussi disait en 2018 « On ne protégera pas les Européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne ». Donc tout ça, ce sont des choses qui sont préparées, notamment lors du congrès de Vilnius qui a eu lieu en 2022, où ils ont décidé de faire passer de 40 000 à 300 000 le nombre de soldats de l'OTAN sur le sol européen. Donc évidemment, pour préparer cette guerre, il faut de l'argent, il faut même des milliards d'euros. Et si tous les travailleurs européens, qui font partie en tout cas du continent européen, voient leur salaire se faire de plus en plus couper, voient leurs services publics se faire de plus en plus attaquer, c'est évidemment parce que l'argent y part ailleurs, et que l'argent y part notamment en milliards dans le financement de canons qu'on envoie à l'Israël, à l'Ukraine, et aussi en Nouvelle-Calédonie.
Bien sûr.
Donc c'est toujours dans cette perspective-là. Et donc, pour nous, c'est primordial d'apporter cette question aussi de la paix, puisque l'Union européenne, c'est pas, entre guillemets, hein, je mets des guillemets et j'insiste là-dessus, une organisation bourgeoise qui pourrait vivre éternellement, comme ça... En faisant une propagande qui viserait à nous faire rêver et à faire quelques coupes de salaire par-ci par-là, c'est pas quelque chose d'éternel. Et actuellement, elle est en train de nous mener clairement à une guerre, comme elle nous a mené à une guerre en Yougoslavie dans les années 90, et comme actuellement elle finance, elle est un des acteurs principaux avec les États-Unis et l'OTAN. Même si je ne sais pas si les distinctions sont très claires à ce niveau-là, dans le cadre de la guerre en Ukraine.
Bien sûr. Elles sont claires en sens que chacun sait que toutes les décisions de l'OTAN sont prises à l'unanimité, et que donc il suffit que les États-Unis disent non pour que ça n'ait pas lieu, et l'inverse. quand ils disent oui, tout le monde y va. Et tout le monde paye. Oui. Hein, c'est un peu ça, puisque l'idée qu'il y a là derrière, il n'y aura pas d'armée européenne, puisqu'en fait, ce sera dans le camp de l'OTAN. Mais les Européens payeront plus. Oui. C'est ce que Trump a dit, a passé 4 ans à dire ça, et c'était tout à fait lucide de sa part, il a payé.
On a voté à l'Assemblée nationale un plan de 413 milliards d'euros sur 7 ans.
Sur 7 ans, tout à fait.
Pour renforcer le budget de l'armement. Donc c'est pas pour rien. Et évidemment, ce budget de l'armement, il n'est pas consacré uniquement à l'armement français, puisque la France fait partie de l'OTAN, fait partie de l'Union européenne. Et d'ailleurs, pour à titre anecdotique, même s'il me semble que cette anecdote pourrait révéler, on va dire, ce qui va advenir de l'armée française dans le futur, récemment, le porte-avions Charles de Gaulle a été essayé par l'OTAN.
Voilà. Il était sous commandement, il vient de revenir à Toulon, et effectivement en Méditerranée, il était sous commandement OTAN, sous commandement américain en fait. Donc c'est clair maintenant. Déjà, on savait que les avions français, les Rafales, pouvaient atterrir sur les porte-avions américains. Hein. Là, c'est dans le sens inverse, mais effectivement, l'intégration est quasi totale. Il n'y a pas l'ombre d'un doute par rapport à ça. Je voulais vous faire une petite lecture par rapport aux auditeurs qui se disent « Mais ça sert à quoi de voter et qu'est-ce que c'est que ce Parlement européen ?» Vous citez un certain Valéry Giscard d'Estaing. Alors, c'est une interview de 2019, puisqu'il est décédé depuis. Et il était interrogé par Europe 1. Et il disait d'abord, je suis l'auteur de la Constitution européenne, rejetée par les Français en 2005. Il disait, c'est moi qui l'ai rédigée. Le Parlement européen n'a pas de pouvoir, il sert juste de chambre d'enregistrement des textes de la Commission européenne. Et je cite lui-même Giscard, alors, il ne faut pas se tromper, ce ne sont pas des élections très importantes. Pourquoi ? Parce que le Parlement européen n'est pas important. C'est nous, je dirais presque c'est moi, bon là on retrouve Giscard fidèle à lui-même, qui avons créé ce Parlement en 1976. Son rôle est simplement de vérifier que les textes proposés par la Commission sont conformes au traité. C'est tout. Il n'a pas de pouvoir politique, il n'a pas le pouvoir de diriger l'Europe. Bon, donc c'est parfait. Hein ? Donc ça vient de la bouche du cheval, comme on dit. C'est celui qui a créé ça, qui dit exactement ce que c'est. Et ça donne une perspective aux gens qui nous écoutent et qui disent « Je vais aller voter pour quoi ?» Je vais aller voter pour rien, en fait. Si, pour des gens qui sont payés 7 500 € par mois hein, et qui font des motions idéologiques, hein, dans le sens « L'OTAN, c'est bien, l'Europe, c'est bien, le socialisme, c'est mauvais. » Enfin, on sait, ils sont tout à fait en capacité, et là, ils sont à la limite payés pour ça, de faire un travail idéologique de sape contre tous les régimes de gauche. Hein. C'est surtout ça, la fonction des députés européens. Et vous allez voir qui va arriver à l'Assemblée, dans cette Assemblée-là, on va bien, il y aura beaucoup de gens qui tiendront ce discours, à commencer par l'inénarrable Glucksmann, il est là pour ça. Hein. C'est très très clair. Donc, je dis ça juste au passage, quand même, ne rêve pas à une gauche anti-européenne, elle est pratiquement la gauche anti-européenne, c'est vous. Mais c'est pas ni Glucksmann, ni les écolos, ni quoi que ça. Il y a très très peu de monde aujourd'hui dans la gauche, et c'est ça qu'il faut faire comprendre. Et alors, par votre attitude du boycott et par le contenu de votre boycott et sa signification.
Voilà. C'est vrai que ce qui est assez alarmant, c'est le silence total en fait de toutes les forces, on va dire progressistes ou social-démocrates, sur justement le saut fédéral imminent. Dont le but est la création d'un État supranational, un État fédéral européen dans lequel la France et donc sa République une indivisible est totalement dissoute. Et dans la résolution pour la révision des traités européens de novembre 2023, il est prévu tout un certain nombre de choses, dont notamment la suppression de l'adoption des décisions à l'unanimité des États membres à la simple majorité, dans une perspective aussi d'élargissement de l'Union européenne au-delà des frontières européennes, donc ce qui est assez cocasse. Et donc dans ce cadre-là, en fait, du jour au lendemain, si par exemple l'Allemagne arrive à convaincre d'autres pays à avoir la majorité simple de... Bah, par exemple, que la France supprime son SMIC, que la France supprime la sécurité sociale, supprime EDF, la SNCF, etc. Tout ça sera évidemment possible. Et donc, comme tu le disais, oui, le Parlement n'est qu'un simple vernis démocratique qui a été créé dans les années 70. Il me semble que c'était Jacques Delors qui disait qu'il fallait... Il fallait qu'on donne l'impression au peuple que l'Europe et que l'UE était démocratique. Et donc, oui, le Parlement n'a pas l'initiative de loi, les députés européens, nous on a 86 sièges, il me semble. Ouais. Donc le ratio électeur-député, il est de 1 pour 86, enfin environ 100 000, un peu moins de 100 000 citoyens. Ouais. Donc à quel moment un député européen représente un Français ? Est-ce que c'est. Enfin, un député européen pour la France représente un Français. Les députés européens sont totalement hors sol. Ils ne représentent en rien le peuple français. Et comme tu dis, on voit bien que c'est un tremplin pour faire des carrières politiques, que ce soit pour les partis d'extrême droite. Hein, c'est beaucoup de partis d'extrême droite dans l'Europe ont utilisé les élections européennes, le Parlement européen, pour déjà toucher des sous et ensuite...
Oui, la trésorerie du parti.
Voilà. Comme Jordan Bardella, dont le
tout
discours politique est complètement vide.
Creux, oui, totalement creux. Mais ça n'a pas d'importance. Oui, ça a pas de... Ouais. Non, il y a ça, la manne financière. Alors il faut savoir que la manne financière, il faut que les gens le sachent, l'Union européenne ne perçoit pas d'impôts. Donc l'Union européenne vit des contributions des États membres. C'est-à-dire que quand vous allez voir dans la rue, il y en a depuis hier, des grandes affiches là avec le drapeau et les étoiles et tout, c'est vous qui les avez payées. Hein, oui. C'est vous qui les avez payées.
Et même on perd de l'argent puisque...
Oui, en plus, il y a le déséquilibre entre ce qui est offert et ce qui est reçu.
Exactement, de 2014 à 2017... c'est même confirmé par des sites pro-européens, la France a perdu 6,7 milliards d'euros.
Voilà.
Et donc c'est des sites pro-européens, donc faudrait recalculer. Mais c'est évident que la France perd de l'argent et aussi dans le cadre de sa désindustrialisation se met en danger. Notamment, je pense à la crise sanitaire qu'on a eue
tout
pour le Covid.
Tout à fait. Avec, alors, puisqu'on est sur la crise sanitaire, rappelons le rôle décisif et dramatique de la Commission européenne, puisque c'est une instance de la Commission, qui est un organe élu par personne, qui a décidé donc de faire un appel d'offres européen pour les vaccins, qui a choisi un vaccin... Le vaccin qui était porté de l'intérieur par le mari de Madame von der Leyen. Alors, c'est quand même beaucoup. Et ça, personne n'a rien dit. Alors, sur le vaccin, je n'ai pas d'opinion. Je sais qu'il y en avait d'autres. Il y avait des vaccins cubains, il y avait des vaccins chinois, il y avait des vaccins russes. Les Européens n'ont eu droit qu'à celui-là. C'était le vaccin de Madame von der Leyen. C'est ça, l'Europe. Ça, c'est des choix qu'on impose à 450 millions de personnes sur la base de trafic d'influence et de corruption. Je n'ai pas parlé, mais on peut le redire aussi. Il y a 2 ans, on a découvert chez des dirigeants de la Commission européenne des valises de billets issues de la corruption par les lobbies que tu mentionnais. Ça ne fait pas partie de la campagne actuelle, on ne l'a pas dit, alors que c'est le fonctionnement quasi normal, parce que les lobbies dont tu parlais tout à l'heure, c'est des gens qui sont installés à Bruxelles, ils sont beaucoup plus nombreux que les fonctionnaires de la Commission, et ils passent leur temps à aller les voir. Mais ça, il ne faut pas que ce projet passe, là par contre, il faudrait retoucher ici et là, et puis viens déjeuner, et puis je t'emmène, on fait un week-end à Chypre, etc.
Ils ne se cachent même pas.
Ils ne se cachent même pas, non. Donc la corruption est étalée. Moi, j'ai eu l'occasion de siéger à Bruxelles dans des commissions syndicales européennes, puisque j'étais militant syndical, et j'ai vu la largesse des permanents qui étaient là. On allait dans des restaurants, j'aurais jamais imaginé qu'on puisse aller manger à des endroits pareils, mais ça, c'était aux frais de l'Europe, c'était la fête, et donc il y avait corruption des militants syndicaux de base. C'était manifeste. Bon. Alors quand on a vu ça, on sait qu'il n'y a rien à attendre, si ce n'est un niveau de corruption encore supérieur, et donc l'obéissance à des intérêts. Alors Pfizer, hein, puisque parlons de Pfizer et de M. von der Leyen, a fait beaucoup, beaucoup de bénéfices sur le dos des Européens. Est-ce que le vaccin servait à quelque chose ? Le débat est ouvert encore, hein, mais de toute façon, c'est tout à fait anormal que ce soit un organe bureaucratique non contrôlé qui décide de la santé de 450 millions de personnes.
Et illégitime.
Et illégitime, tout à fait. Sans légitimité, puisque tout le monde est nommé par son gouvernement, etc. Donc ça, c'est très très bien. Alors, vous êtes sur cette position de Moscou, on est presque au bout. Est-ce que vous avez des alliés objectifs qui défendent la même position que vous? Parce que je sais qu'il y en a, donc il est bon de dire que vous n'êtes pas seul à avoir cette position. Et donc, c'est bien de dire que c'est un débat qui a lieu, qui est alimenté par des gens qui savent de quoi ils parlent et qui sont sur la même position que les IRCF et que le PRCF. C'est Quentin qui répond. Voilà.
Il y a eu une manifestation. Il va y avoir une manifestation unitaire le 1er juin À Paris.
Samedi. Samedi.
Samedi, donc avec le PERCEF, la GRCF, le PARDEM, le SDP et une autre organisation dont j'ai...
Le RPS et le DPC.
Voilà.
Exact. Et donc, toutes ces organisations politiques sont... Enfin, on se retrouve, on a un point d'accord sur la ligne eurocritique et sur... l'importance de délégitimer en masse, puisque c'est vraiment ça, ce qui est important, c'est la délégitimation en masse du scrutin du 9 juin, parce qu'une participation très importante à ces élections pourrait être utilisée ensuite a posteriori par tous les parlements pour légitimer le sauveur fédéral européen.
Tout à fait.
Et donc, on n'est pas seul. Apporter le mot d'ordre du boycott, même si on est aussi l'une des seules organisations communistes, marxistes-léninistes à affirmer clairement la nécessité, dans le combat communiste actuel, du Frexit progressiste. La sortie de l'Union européenne est évidemment nécessaire, puisque c'est un carcan qui vise à rendre en fait le socialisme impossible. Que ce soit avec les critères de Maastricht, que ce soit avec l'interdiction des nationalisations aussi, toute nationalisation est de fait impossible au sein de l'Union européenne. C'est pour ça que c'est un combat qu'il faut mener.
Et comme tu l'as dit, c'est aussi une question d'énergie, dans le sens où toute cette énergie qui est mise dans les élections, tout cet argent qui est mis dans ces élections pourrait être mis ailleurs au bien profit d'un Frexit progressiste.
Tout à fait.
Et qui est nécessaire, et surtout en vue de la situation géopolitique mondiale actuelle.
Bien, je regarde l'heure. Vous serez peut-être pas à Paris, si vous êtes à Paris tous les deux.
Alors non, parce que le 1er juin, il y a le café marxiste d'Annie Lacroix.
Je tendais là une énorme perche.
Et oui, le café marxiste d'Annie Lacroix, donc à propos de son ouvrage Le choix de la défaite, qui parle du fascisme français.
Ouais.
Et donc dans sa responsabilité justement dans l'après-guerre et dans la fin de la guerre aussi.
Comment la bourgeoisie française a vendu la France avant la guerre, dans les années 30, et a préféré Hitler plutôt que le Front populaire, et a activement préparé la défaite française en 39-45.
Et donc, ça se passera à mon café, donc c'est à la Plaine.
À la Plaine, voilà.
De 14h30 à 16h30.
Très bien. Donc, j'invite tous les...
Quel jour
le
samedi,
1er juin.
Samedi prochain. Grand merci, bon courage dans votre bataille.
Merci
on partage beaucoup de mêmes objectifs et on le fait comme ça à longueur d'année, à longueur de semaine. Ouais. Et puis voilà, il faut que ça avance et puis surtout éviter qu'il y ait des divisions de gens qui se présentent au nom des mêmes valeurs que vous et qui font un travail dans le sens inverse. C'est très très... Bon, je ne veux pas les enfoncer, c'est dommage.
C'est dommage.
On le regrette. Merci encore de votre présence.
Merci
Roselyne. Je ne sais pas si on passe Jean Ferrat ou si on passe l'autre.
Jean Ferrat.
Non, c'est une chanson qu'il a produite par rapport à la guerre d'Indochine.
Ah, oui. Les guerres du mensonge, les guerres coloniales, si c'est vous et vos pareils,
tant que c'est à lui.
Qui en êtes tuteur, quand vous les approuviez à longueur de journal, votre plume signait 30 années le malheur. La terre n'aime pas le sang ni les ordures, Agrippa d'Aubigné le disait en son temps, votre cause déjà sentait la pourriture. Et c'est ce fumet-là que vous trouvez plaisant. Ah, monsieur d'Ormesson, vous osez déclarer qu'un air de liberté flottait sur Saigon. Avant que cette vie s'appelle ville Hochimine, allongée sur les...
les rails, nous arrêtions les trains pour vous et vos pareils. Nous étions la vermine sur qui vos policiers pouvaient taper sans frein. Mais les rues résonnaient de paix en Indochine. Nous disions que la guerre était perdue d'avance et 100 000 Français allaient mourir en vain contre un peuple luttant pour son indépendance. Oui, vous avez un peu de ce sang sur les mains.